L'industrie du cinéma grand public et de l'audiovisuel grand public au sens large est dans un mur. Elle court partout comme un poulet sans tête, je crois qu'on est pas mal à être d'accord là-dessus. Inflation aberrante et absurde des budgets, absence totale de prise de risque, difficulté à utiliser les talents en présence pour ceux qui savent faire de mieux. Enfin bref, il faut trouver des solutions alternatives, il faut réinventer l'industrie et trouver des chemins de traverse. Et récemment, il y a un film qui a exploré un de ces chemins de traverse de manière vraiment pas inintéressante. Ce film, c'est Iron Lung, un film de science-fiction slash horreur cosmique, écrit et réalisé par un youtubeur américain, Markiplier, qui est sorti à la fin janvier, début février, et qui a été un succès surprise, qui emmerde pas mal l'industrie. Et ça, ça fait plaisir. Alors, Iron Lung est adapté d'un jeu vidéo du même nom sorti en 2022. Ça se passe dans un futur où il y a eu une catastrophe à échelle cosmique qui s'est déroulée, qui s'appelle The Quiet Rapture. Et en fait, toutes les étoiles ont disparu, et l'immense majorité de l'humanité, qui se trouvait sur des planètes notamment, a disparu. Et les seuls humains qui ont survécu, c'est ceux qui étaient sur des stations spatiales ou des vaisseaux spatiaux. Donc on se trouve dans un univers sans étoiles, où il y a une poignée d'humains qui survivent et qui essaient de comprendre comment survivre et vers où se diriger. On est en plein dans une sorte de solitude cosmique assez ouf. Et le jeu se passe sur une sorte de lune inhabitée, qui est recouverte par un océan de sang. J'ai l'impression d'être Viggo des Carpates quand je raconte ça. Une montagne de crânes dans le château de souffrance. Je siège sur mon trône de bord. Bien, le château de souffrance, il y en a un. Et dans le jeu, on joue un condamné, qui n'a pas de nom, si je dis pas de conneries, qui est plongé dans un tout petit sous-marin dans l'océan de sang pour trouver potentiellement des choses qui vont aider l'humanité à survivre. C'est un jeu qui est très court, où tu pousses des potards, qui a une ambiance vraiment particulière. J'y ai pas joué, mais j'ai vu quelques let's play, et notamment le fameux let's play de Markiplier qui lui a donné envie d'adapter le jeu en film. Et c'est pas un jeu qui est évident à adapter, parce que au-delà de ce concept qui est vraiment génial, il y a peu de trucs narratifs à exploiter. Vraiment, t'es dans l'océan, tu te diriges vraiment avec une carte incomplète et tu prends des photos avec un appareil photo à radiation pour y voir quelque chose dans cet océan de sang. Tu prends des photos par-ci par-là pour voir ce qu'il y a en dehors du sous-marin. Donc c'est ultra pulp, mais en même temps, le concept, c'est vraiment une tâche répétitive et absurde dans un vide existentiel complet. C'est pas forcément une adaptation qui requiert du punch. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus un truc un peu lynchien, on va dire, dans l'esprit. En tout cas, ce qui rend ce film particulier, c'est d'abord la manière dont il a été fait. Parce que c'est un film qui a été fait entièrement en indépendance, qui a été entièrement autofinancé par Markiplier. Le film a un budget de 3 millions de dollars, ce qui est l'échelle d'un film n'est pas beaucoup, mais quand tu... Tout le monde n'a pas 3 millions de dollars à mettre de sa poche. Et surtout, c'est un film qui a été autodistribué. Donc ils ne sont pas passés par un distributeur au sens classique du terme, c'est littéralement Markiplier et son équipe qui ont appelé les exploitants de salles aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il n'y a pas eu de campagne marketing particulière, c'est vraiment Markiplier avec sa communauté YouTube qui a poussé le truc. Et ils ont petit à petit vraiment distribué le film à grande échelle, comme ça. Alors c'est pas forcément possible de faire ça partout, notamment en France. Il faut un visa d'exploitation, il faut passer par le CNC, enfin tu peux pas juste appeler les exploitants et comme ça.
Oui, bien sûr que c'est sérieux.
Au départ, Markiplier a voulu produire ce film dans le circuit classique, donc il a démarché des studios, des producteurs et ainsi de suite. Il s'est rendu compte très vite que ça le ferait pas, parce que l'industrie étant ce qu'elle est, c'est un miracle qu'un film se fasse. C'est toujours au prix de 1 milliard de compromis, et si le film est à 5% conforme à ta vision de base, c'est encore plus un miracle. Et d'un seul coup, Markiplier s'est souvenu qu'il était riche. Donc, le risque qu'il a pris est tout relatif parce que le mec étant un let's player qui a quasiment 40 millions d'abonnés, je pense que financièrement il est à l'abri sur 130 générations. Mais encore faut-il le prendre ce risque. Parce que s'engager dans la production d'un film, que tu sois riche ou pas, dans sa distribution et dans tout le cycle de vie d'un film, faut s'accrocher. Donc bien sûr, c'est pas un exemple qui est extrapolable à tout le monde et qui est pas juste une manière de faire qui est applicable à tous les cinéastes indépendants, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer la puissance de la symbolique. Le fait que Markiplier ait fait ça comme il l'a fait, ça envoie un signal quand même qui est nécessaire, et ça fait plaisir parce que l'industrie reste extrêmement protectionniste, sans trop savoir quoi faire avec la manière dont le monde évolue, dont les médias évoluent, dont Internet évolue. Donc elle s'accroche un petit peu à ses privilèges et à cette manière de resplendir comme, on va dire, la forme d'art reine dans l'audiovisuel. Et ce qui l'a fait rejeter en fait tout ce qui ne passe pas à travers ses tuyaux, qui n'est pas sous son contrôle. Alors notamment les gens d'Internet, Ça les a toujours bien emmerdés, les gens d'Internet, parce qu'ils savent pas trop quoi en faire. Les chiffres sont là, donc ils veulent pouvoir les exploiter, mais en même temps, ils veulent bien symboliquement maintenir les gens d'Internet dans leur case et leur dire que vous êtes des petits joueurs par rapport à nous. Le film, au moment où j'enregistre cette vidéo, a rapporté quasiment 50 millions, ce qui pour un budget de 3 millions, qui en plus n'a aucun budget de campagne marketing ou quoi que ce soit, c'est vraiment passé par les réseaux de Markiplier, ce qui est un succès phénoménal. Donc voilà, on parle beaucoup de ce film pour la manière dont il a été fait, mais qu'est-ce que ça vaut ? Mais avant toute chose, puisqu'on parle d'un poumon d'acier, on va rester dans cette thématique métal, puisque cette vidéo est sponsorisée par Metal Hurlant. Alors, si vous suivez la chaîne ou la culture alternative sous toutes ses formes, Metal Hurlant, vous connaissez d'une manière ou d'une autre. Revue cultissime créée dans les années 70, consacrée aux univers de l'imaginaire, Metal Hurlant a eu un impact énormissime sur toute la science-fiction mondiale depuis. Et c'est une revue qui a ressuscité en 2021 sous une forme trimestrielle, avec une mouture qui rend à la fois hommage au métal des origines, mais propose aussi plein de nouveautés. Là, on en est au 18e numéro qui vient de sortir et qui est consacré à la thématique du transhumanisme, upgrade ou crève, comme indiqué sur cette très belle couverture. Donc le transhumanisme, cette obsession qu'a l'espèce humaine à augmenter son corps et ses capacités biologiques à travers la technologie, pour le meilleur et pour le pire. Donc niveau sujet métal, ça se pose là. Comme d'habitude, c'est plein à craquer de bandes dessinées qui partent dans tous les sens, plein de propositions autour de la thématique transhumaniste de la part de tout un tas d'auteurs vraiment talentueux. Mais on y retrouve aussi des rubriques littérature, des rubriques cinéma, des interviews, dont une de tonton Paul Verhoeven, ça fait plaisir, qui parle notamment de la manière dont son Robocop résonne encore aujourd'hui. Bref, c'est touffu, c'est créatif, c'est délicieusement foutraque sur quasiment 300 pages de pur plaisir. C'est disponible en librairie et en kiosque, mais l'idéal bien entendu, c'est de s'abonner, notamment avec le lien que je vous mets en description de la vidéo qui vous permettra d'avoir jusqu'à 20% de réduction, ce qui n'est pas rien. Donc voilà. Foncez, c'est d'abonne. Et au passage, ils ont aussi lancé des précommandes pour un hors-série sur la BD Lovecraftienne, qui fait pas partie de l'abonnement classique, mais qui s'annonce dantesque, donc je vous mets aussi le lien en dessous de la vidéo. Sur ce, installez-vous confortablement, et je vous souhaite un très bon épisode.
Let me take a picture. Okay, I'm okay.
Comme je disais un petit peu avant, Iron Lung, c'est un jeu qui est en apparence simple et te donne par réflexe le truc du il faut en faire un film, ça sera un film incroyable, mais qui en fait est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît à adapter. Parce que, encore une fois, c'est un jeu très court qui contient très peu de choses narrativement sur un storytelling classique. Donc, si tu veux en faire un film, il y a énormément de choses à réinventer et énormément de choses à inventer tout court. Et comme vous avez pu le voir à travers les différents extraits que j'ai mis dans la vidéo jusque-là, c'est bien sûr un huis clos. C'est-à-dire que ça se passe exclusivement dans le petit sous-marin, de bout en bout. Et quand t'as un petit budget, le huis clos, logistiquement, c'est ultra pratique. Parce que t'as juste à payer pour la construction d'un seul set, et tu restes de bout en bout sur ces sets-là, avec une équipe et de l'équipement que t'as besoin de trimballer à droite à gauche. Donc, c'est a priori logistiquement la solution idéale, mais c'est aussi pratique logistiquement que c'est compliqué créativement. Parce que quand tu fais un huis clos, t'as très peu de clés à remuer à la face des gens pour les divertir. Quand tu fais un huis clos, il faut être en pleine possession de tes moyens en tant que cinéaste, et surtout avoir une confiance totale en ton récit et en tes effets. Le truc qui fait s'écrouler n'importe quel huis clos, c'est le fait de laisser les choix créatifs être dictés par la peur, et notamment la peur d'emmerder le spectateur. C'est ça qui transforme les films en une espèce de film zombie qui ont plus de rythme, qui tracent, tu sais pas pourquoi, enfin bref, qui ne laissent rien se poser. Le rythme, c'est pas forcément aller vite, c'est savoir quand accélérer et quand décélérer. Et les 30 premières minutes de Iron Lung, c'est regarder un labrador excité qui court dans tous les sens. Il y a une sorte de surstimulation constante dans ces 30 premières minutes où je me suis dit « Putain, ça va être long. » Le set design, l'éclairage, ça a de la gueule tout ça, notamment pour un aussi petit budget, mais putain, si ça reste comme ça, ça va être très très long. Le sound design dans les 30 premières minutes est sursaturé d'une densité folle, ça n'arrête pas partout, les sursollicitations de notre attention sur des bruits qui sont internes à cet univers, le sous-marin autour du personnage, mais aussi des bruits d'habillage pour surdramatiser tout ce qui est en train de se passer et la peur de ce personnage qui est plongé dans cet océan de sang. Il y a aussi la manière de filmer, où tu dis, sur un aussi petit set, il n'y a pas 3000 manières de filmer la tronche de Markiplier, le haut-parleur d'où sortent la voix des militaires, et la console et les différents potards. Ben si, en fait, il y a 3000 manières de le filmer. Même plus, mais ça veut pas dire que tu devrais constamment le filmer de 3000 manières. Il faut choisir une manière qui s'adapte en fait à ce que tu veux raconter et à ce que tu veux faire ressentir au spectateur. Mais là, j'ai l'impression que sur le tournage, je suis persuadé qu'il y avait un running gag qui disait « Alors, aujourd'hui, on filme comment le haut-parleur? Sous quel angle ?» Et ce qui fait que chaque fois que tu passes d'un truc à l'autre, ça n'arrête pas de changer de valeur de plan, d'angle, de truc, de machin, mais complètement gratuitement. C'est comme cette première demi-heure si Markiplier voulait dire au spectateur « Non, non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est un huis clos de 2 heures. » Plus de 2 heures, c'est long. Un huis clos, ça devrait faire 1h30 à tout péter. Plus de 2 heures, notamment là-dessus, c'est très long. « Vous inquiétez pas, regardez, ça bouge! Ça bouge! Regardez ce haut-parleur que vous avez vu sur les 5 premières minutes, déjà sous 17 angles différents. » Après, il y a tout un truc qui relève de l'univers mental du personnage. C'est pas déconnant que le début du film soit frénétique parce que le mec est surpaniqué d'être plongé dans l'océan, donc il est surattentif à absolument tout. Donc ça pourrait justifier une sorte de surconscience des bruits qui l'entourent. Mais il faudrait que ça soit travaillé dans ce sens-là. Vraiment qu'on ressente la solitude profonde, parce que Aaron, ça parle de solitude cosmique et existentielle, la solitude profonde de ce personnage dans son petit sous-marin claustro, qui est surconscient des sons qui l'entourent. Mais encore une fois, le sound design n'est pas travaillé vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment un sound design de... sound design de bande-annonce, presque. Et ça donne ce truc un petit peu bizarre, en fait, où t'as quand même affaire à un récit qui parle de solitude humaine, mais où, pendant une très grande partie du film, t'as jamais la sensation d'être seul avec le personnage, parce que t'es constamment sursollicité. Et Markiplier est filmé sous tellement d'angles différents pour renouveler l'intérêt, visuellement, qu'au bout d'un moment, je crois que l'inconscient a l'impression d'avoir affaire à plusieurs personnages. This is not an expedition. Et ça donne ce truc un petit peu paradoxal où Markiplier approche le truc comme s'il avait un peu peur qu'on perçoive le film comme trop long et qu'on s'emmerde, mais en même temps, à l'écriture, il l'a rendu presque inutilement trop long. Parce que pour renouveler l'intérêt et donner au personnage des trucs à faire, il y a un MacGuffin là, il faut tracer, il faut aller retrouver une épave et trouver la boîte noire ici et ça et machin. C'est des rebondissements en fait qui sont censés actionner une mécanique de récit pour faire bouger le personnage et avoir l'impression quand même que le film va quelque part et qu'on voit pas juste un mec qui pose des potards. Mais c'est pas des rebondissements qui sont essentiels pour faire avancer thématiquement le personnage. Est-ce que je veux dire ? C'est vraiment là pour injecter du mouvement dans l'intrigue, mais en ce qui concerne le personnage et son évolution, et notamment cette manière dont il va être de plus en plus sensible à une sorte d'entité cosmique qui se trouve dans l'océan et qui va le faire basculer dans la folie. Je veux dire, tu pouvais faire un film beaucoup plus ramassé, de à peu près 1h30, 1h40, et lisser un petit peu plus cette descente dans la folie sur l'ensemble du truc. Parce que là, techniquement, la descente dans la folie, elle arrive vraiment dans la deuxième partie du film. Toute la première partie, pas vraiment. On a vraiment juste la panique d'un mec qui est là et qui comprend pas trop si même il a envie de survivre ou non. Et ce qui fait que là, le film, je l'ai vu il y a quoi ? 2 semaines, à peu près. Je me souviens de certains moments qui sont très réussis, dont on va parler. Je me souviens de certains moments vraiment articulés autour du personnage, de ce qu'il ressent, autour de... vraiment ce que ça raconte humainement. Mais la pure intrigue, la mécanique de l'intrigue, j'en ai aucun souvenir. Parce que ça n'importe que peu. I see that question in your eyes. Mais tout ceci étant posé, à peu près à la moitié du film, le labrador se calme. Et Iron Lung trouve son rythme. Il se pose et il se renouvelle. À peu près à la moitié du film, il y a une scène qui est longue, qui est vraiment cool, où le sous-marin n'est plus alimenté, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus quoi que ce soit. C'est une scène complètement plongée dans le noir, qui est ponctué uniquement par les flashs de l'appareil photo à radiation, qui fait flash. T'as 5-6 secondes de lumière, et on revient dans le noir. Il n'y a aucune musique pendant toute la scène. Le sound design de l'appareil photo, putain, est vraiment, vraiment super cool. Et tu suis juste Simon en train d'essayer de bidouiller des trucs, faire en sorte que l'appareil photo se déclenche automatiquement parce qu'il a réussi à tanker le bouton avec un autre truc, ensuite à aller dans une écoutille pour passer dans une autre partie du sous-marin pour trouver ce dont il a besoin, il est pas sûr, enfin, encore une fois, c'est une scène qui est longue. Et à ce moment-là, là, t'as un choix de cinéma qui est assumé jusqu'au bout, et qui sort complètement du langage de l'efficacité, de l'impératif à « Regardez, il se passe des trucs !» Non. Là, ça te pose, ça te chope, et là, le film devient autre chose. Et c'est ça aussi le truc qui est assez compliqué avec ce genre de film, c'est qu'une bonne partie de ce qui fonctionne ou fonctionne pas, ça passera vraiment par les choix de mise en scène et de montage. Donc vraiment, dans ton rôle de cinéaste, bien plus que dans ton rôle de scénariste. Et c'est compliqué quand t'es sur un premier film, un premier long métrage comme ça, parce que c'est le premier long métrage de Markiplier en tant que scénariste et en tant que réalisateur. Il a réalisé et écrit des trucs avant pour sa chaîne YouTube qui sont fictionnels, mais même si ça reste très compliqué à faire, on est plus dans une zone de confort parce que c'est plus articulé autour de sa chaîne, de son personnage, de quelque chose qui a moins besoin en fait de choix tranchés. On est plus vraiment dans un truc de l'efficacité qui n'est pas remis en question. Et là, quand t'es scénariste, notamment sur ton premier long métrage, t'as envie d'écrire un banger, t'as envie d'écrire un truc qui, déjà sur la page, va mettre d'accord les gens. Parce que t'as besoin juste de validation, t'as besoin que les gens te disent « putain, c'est génial !» Donc en fait, quand c'est ta première fois en tant que scénariste, en tant que réalisateur, tu vas vouloir en faire trop. Quoi qu'il arrive, tu veux tout y mettre. Parce que c'est peut-être ton premier et ton dernier, donc tu veux tout y mettre. Et c'est aussi pour ça, je pense, que le film est aussi long. C'est que, comme il a été fait complètement en autarcie, Markiplier n'avait pas forcément un producteur qui était en mesure de dire « bon là, ça serait peut-être bien de resserrer ». Parce qu'on a toujours cette image d'Épinal des producteurs avec leurs gros cigares qui vont dire « ah, je veux une explosion à la fin ». Enfin, des gens qui se mettent vraiment, qui te filent le pognon, mais qui se mettent aussi en travers de ta vision créative. C'est pas du tout ça un producteur, la plupart du temps. Le producteur, c'est celui qui va t'aider vraiment à mettre en place le film et qui va justement te protéger des décisions de merde s'il fait bien son boulot. Mais c'est aussi quelqu'un comme un producteur de musique qui va pouvoir t'aiguiller en affinant, on va dire, ta vision créative avec un regard extérieur. Après, le scénario du film est bancal au sens de pas bien équilibré et un petit peu trop boursouflé à certains moments quand ça aurait gagné à être dégraissé. Mais ça lui donne un côté rafraîchissant parfois, notamment parce qu'il obéit pas forcément aussi aux règles de setup payoff qu'on voit absolument partout dans le cinéma grand public. Par exemple, quand au début du film, le sous-marin est sorti momentanément de l'eau, on reste complètement dans le sous-marin, on voit les autres personnages à travers le hublot qui est recouvert de sang, donc il y a un choix qui est aussi intéressant vraiment de rester quoi qu'il arrive dans le sous-marin. Et il y a cette scène où, dans un accès de rage, parce qu'il est juste apeuré, paniqué et tout ça, il actionne l'appareil photo, Simon, et en fait il irradie les militaires. Et quand un truc comme ça se passe, et que ça devient tout un truc pendant 10 minutes où il s'excuse, il comprend pas, et la militaire lui explique qu'en fait il a irradié des gens et que ça a des conséquences, ce qu'il vient de faire. Il s'excuse, et tu penses que ça va être un payoff plus tard, dans le film, sauf que absolument pas. Mais ça veut pas dire que c'est inutile, parce que ça permet aussi du character building, et par la manière qu'a Simon de réagir en fait à ce qu'on lui dit, ça te montre bien plus qui il est. Voilà. Ça pourrait être quelqu'un qui dirait « Ouais, vous m'avez plongé dans cet océan, je vais probablement y mourir, allez bien vous faire foutre, vous êtes irradié, j'en ai rien à foutre. » Mais le mec se sent pas bien, il est juste « Putain, je suis désolé, je savais pas. » Donc, c'est là pour une raison, pour le développement du personnage. Mais n'importe quel autre scénario, beaucoup plus cloisonné, beaucoup plus calibré hollywoodien, on va dire, on aurait fait quelque chose qui a un payoff, même si c'est un payoff paresseux. Parce qu'il y a toujours ce jeu d'écho dans les scénarios qui fait que rien n'est là pour être laissé au hasard, quoi. Mais bref, pour un film à micro-budget fait en complète autarcie sur un genre qui n'est pas évident, le huis clos, et fait par quelqu'un qui, sur des longs-métrages classiques, n'a d'expérience ni en tant que scénariste ni en tant que réalisateur, putain, ça aurait pu être vraiment foiré. Après, il y a tout le truc du « ça aurait pu être autre chose », ça aurait pu vraiment aller beaucoup plus loin dans l'horreur cosmique, pas juste en termes de vision montrée notamment dans la deuxième partie du film, mais vraiment de te faire ressentir l'horreur absolue de la solitude existentielle du gars dans son petit sous-marin, dans un océan de sang sur une lune déserte, il aurait fallu se permettre des décrochages un petit peu moins grand public, et comme je l'ai dit en intro, peut-être un peu plus lynchien dans l'esprit. En même temps, le film est ultra pulp dans sa proposition de base et son concept. Le film a été fait vraiment en totale indépendance, mais il veut être aussi accessible au plus grand nombre. Donc il y a vraiment ce côté un peu paradoxal qui fait que, ouais, ça aurait pu être autre chose. Mais en l'état, le film vraiment contient des qualités. En plus, Markiplier, c'est un mec qui est extrêmement sympathique. Donc, je suis content que ça fonctionne pour lui. Et surtout, le film est intéressant dans la mesure où il montre comment les films de YouTubeurs sont vraiment, vraiment en train d'évoluer. Il y a quelques années, en 2022, j'avais fait partie d'un jury au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand qui venait d'ouvrir une section dédiée aux films venant de gens d'Internet. C'est une section qui s'appelait Pop-Up. Et avec les autres membres du jury, on s'était forcément posé la question, est-ce qu'il y a fondamentalement une différence entre les films issus d'Internet et les films faits plus classiquement, qui justifient en fait l'ouverture d'une section. Perso, instinctivement, j'avais tendance à me dire « Non, il n'y a pas de différence. » Je veux dire, un film, c'est un film, t'as une vision, l'idée, quel que soit le contexte où tu te trouves ou l'endroit où tu te trouves, ça va être de matérialiser cette vision, quelle qu'elle soit, point barre. Bon, ça c'est théoriquement, mais dans la pratique, bien sûr que si. Il y avait, particulièrement à l'époque, il y a encore aujourd'hui des différences qui se sont un petit peu estompées, mais il y a des différences. Il se trouve que quand tu fais un film et que tu sais que le public sera venu dans une salle de cinéma, aura fait la démarche de venir pour s'ouvrir à une proposition et qu'ils vont pas se barrer, enfin ils peuvent se barrer, mais logiquement ils vont pas se barrer, c'est, même à un niveau inconscient, c'est fondamentalement différent de faire un film quand tu sais que ton public, c'est un public volatile dont tu vas devoir capter l'attention par tous les moyens au milieu d'une profusion de contenu et de stimulation. Même à un niveau inconscient, ça a un impact. C'est ce qui fait que les films venant d'Internet, généralement, se laissent beaucoup moins la liberté de jouer avec les attentes ou de déstabiliser. Visuellement, ça se voit au niveau de l'éclairage. En tout cas, à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, c'était des films qui avaient tendance à être beaucoup plus suréclairés, qui jouait beaucoup moins sur le fait de sculpter l'image avec des jeux de lumière et d'ombre. Il faut que l'information dans l'image soit immédiatement accessible. Et surtout, là où la différence se sent réellement, c'est le montage. Le montage, bien entendu, c'est là où tu gères le temps et tu gères comment en fait l'attention du spectateur sera sollicitée. Donc en fait, le nerf de la guerre, il est là. Et c'est ce qui a toujours rendu Internet un petit peu paradoxal à ce niveau, c'est que d'un côté, théoriquement, c'est un endroit où tu as la liberté de poster ce que tu veux et les films que tu veux avec la démarche que tu veux. Mais dans les faits, c'est un univers en fait qui s'est aussi assez rapidement auto-calibré, justement par volonté de saisir l'attention avec un langage qui est immédiatement identifiable, les pulsations de l'image, la rythmique des choses. Alors ça n'empêche pas que les films pas issus d'Internet, issus du circuit classique, même si c'est des films indés qui ont un langage qui n'est pas le langage de l'image dominant, ces films-là ont leur propre code et ont leur propre cliché. Tout ça, bien sûr, ça existe dans les médias au sens large. C'est juste que j'ai l'impression que c'est plus visible, plus explicitement visible sur Internet. Et bien sûr, là je parle juste de tendance générale. Comme d'habitude, il y a plein de contre-exemples qui existent. Et au milieu de ces films de gens d'Internet, les films de YouTubeurs, c'est une classe particulière. Parce que c'est des, comme son nom l'indique, c'est des films réalisés par des gens qui sont avant tout identifiés en tant que personnages publics à travers leur activité de YouTubeur. Et pendant très longtemps, les films de YouTubeur, ça a été avant tout des produits dérivés. C'était des films à gimmick basés sur les personnages qui les ont rendus populaires sur YouTube. Souvent des films qui restaient sur Internet, qui étaient faits plus ou moins indépendamment. Et quand c'était fait dans le circuit classique avec l'industrie classique du cinéma qui disait « Tiens ouais, on va en faire un film », c'était souvent de manière très très cynique parce qu'il y avait un mépris absolu affiché par l'industrie qui voyait les chiffres, qui disait « On va faire un petit peu de thunes, ok, on va faire un film », mais on balaye sous tapis et il y a toujours cette espèce de défiance. Et le truc, c'est que c'est en train de changer. Ça fait 2, 3, 4 ans à tout péter que vraiment il y a eu un shift où on voit des gens qui sont youtubeurs, identifiés comme youtubeurs et des youtubeurs assez populaires, qui se sont mis vraiment à investir l'industrie classique et à y proposer des films qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui les a rendus populaires sur Internet et qui sont des films, parfois, extrêmement respectés. Je veux dire, la success story la plus évidente à ce niveau-là, c'est les frères Philippou, qui ont fait Talk to Me et Bring Her Back ces dernières années, qui sont deux des films d'horreur les plus respectés des 10 dernières années, qui sont devenus la coqueluche de A24, et qui, à la base, ont une chaîne, c'est des Australiens qui ont une chaîne qui s'appelle Raka Raka. C'est Jackass. C'est, les mecs, c'est Jackass. Et quand tu les vois en interview, les mecs, c'est des personnages de cartoon, ils sont trop drôles. Et ils font ces deux films. Et soudainement, il y a des murs symboliquement qui s'écroulent. À côté de ça, on a aussi bien sûr l'exemple de Chris Tuckman, critique YouTube de cinéma, qui a fait le film d'horreur Shelby Hawks, qui est sorti l'année dernière, qui avait tellement à cœur de faire un film qui ne soit pas un film de YouTuber ou qui ne ressemble pas à un film de YouTuber, qu'il a fait un film avec un langage classique tellement interchangeable qu'il aurait pu être fait par n'importe qui dans l'industrie. Il y a aussi Curry Barker de la chaîne That's a Bad Idea. C'est une chaîne qui s'est fait surtout connaître pour faire des sortes de sketchs d'humour noir décalé avec un sens du timing et de l'écriture qui est vraiment particulière. Et Curry Barker a aussi un amour fou pour l'horreur. Il a fait pas mal de courts-métrages sur la chaîne d'horreur, notamment un long-métrage aussi qui s'appelait Milk and Cereal, qui était un long-métrage de fan footage qu'ils ont sorti sur leur chaîne il y a à peu près 2-3 ans, qui était vraiment pas mal. Et là, il va sortir son premier long-métrage au cinéma qui s'appelle Obsession. Et vu vraiment ce que fait le mec, je suis sûr que ça va être vraiment, vraiment intéressant dans la lignée des frères Philippou. T'as aussi Kyle Edward Ball, Putain, c'est plus compliqué à dire qu'il n'y paraît quoi. Carl Edward Bow, qui est le mec qui a fait Skinamarink, qui est un des films d'horreur expérimentaux les plus ouf des dernières années. Ce mec vient d'Internet. Après, c'est pas un YouTuber au sens classique, mais il a une chaîne YouTube où qui s'appelle Bite-Sized Nightmares, où, sous forme de courts-métrages expérimentaux, il met en image les cauchemars des gens de sa communauté, que les gens de sa communauté lui racontent. Donc techniquement, c'est un YouTuber qui est en interaction avec sa communauté et qui existe d'une certaine manière sur YouTube. Et il a fait Skinamarink. Enfin, il y a vraiment... Les lignes sont en train de bouger, mais c'est aussi parce que le temps passe, la porosité entre les différents univers est en train de s'effacer de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui font des carrières vraiment à mi-chemin entre les différents médiums, qui sont YouTubers à côté, mais qui vont aussi être très actifs dans le milieu du cinéma, de la musique et tout ça. Donc forcément, c'est comme chaque fois qu'il y a un turnover générationnel. Et à mesure que les gens d'une certaine génération arrivent au poste de décision, les lignes changent. Et là, on est vraiment dans les années où ces lignes sont en train de changer. Et ça, c'est vraiment cool, parce que dans un monde qui a tendance à nous cantonner de plus en plus à des niches, qui nous transforment de plus en plus en gimmicks, notamment sur les réseaux, voir des gens qui développent ces différents aspects, c'est vraiment cool. Vraiment, plus le temps passe, et plus je pense à un personnage de Community, la série. Celles et ceux qui ont vu Community, hein, vous allez savoir de qui je parle, Magnitude. C'est un personnage en fait qui n'existe dans le monde de Community qu'à travers son gimmick.
Magnitude. Papa.
Et chaque fois qu'il dit pop pop, les gens autour font. Et en fait, c'est un personnage qui n'existe tellement qu'à travers ça que son vide à côté de ça devient presque une sorte de vertige. Putain, tu vois, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Et n'ayons pas peur des mots, Community a été assez visionnaire à ce niveau-là, et le personnage de Magnitude, il est partout sur les réseaux maintenant. Mais en même temps, c'est la règle du jeu pour survivre, pour exister, pour se démarquer, on doit devenir la personne qui... Trois petits points. Et dans tout ce contexte, le cas de Aaron Lang est intéressant, et assez unique, parce que c'est le seul film jusque-là qui, dans son déroulé même, est un film de YouTuber qui se transforme en film tout court. Il y a ce premier acte qui est d'une frénésie absolue, qui correspond en fait à la manière qu'on avait de considérer les films de YouTubeurs il y a quelques années, avec cette peur d'emmerder les gens et juste « Regardez les clés qui bougent !» Et petit à petit, le truc entre dans ses pompes, met son costard, qui est un petit peu trop grand, et là, boum, il remplit son costard et il fait « Ok, tiens !» Et si on commençait à faire du cinéma ? Et il y a un truc vraiment cool à voir, et qui, encore une fois, envoie un signal assez important, je pense, à l'industrie. Du coup, je suis vraiment très curieux de voir l'effet que va avoir Aaron Lang à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Aaron Lang dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de le voir. Je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos en mars, pour les prochaines aventures. Et voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.